Donc en ce samedi saint, l'Église est dans l'attente. Nous, traditionnellement, on contemple la foi de la Vierge Marie. C'est la seule qui a cru. Alors, est-ce qu'elle savait le dénouement qu'aurait vraiment, ce qui s'est passé, je ne sais pas dans quelle manière, mais en tout cas, elle avait confiance. C'est vraiment ce que nous sommes nous aussi invités à faire, c'est que dans l'épreuve, c'est de garder confiance, même si nous ne voyons pas trop comment les choses vont se réaliser, comment les choses vont se dénouer. Et donc Marie avait cette confiance, c'est la seule qui garde confiance, c'est le type même de la foi de Marie, de la foi de l'Église, qui garde confiance quelles que soient les situations et les épreuves, et particulièrement donc dans ce samedi saint où Dieu semble silencieux, le Père semble ne pas réagir, le Fils est mort, l'Esprit Saint aussi semble silencieux. Pourtant c'est une journée d'attente, de confiance dans la foi. Marie donc est cet exemple, mais ce n'est pas une journée où l'Église ne fait rien, c'est-à-dire que l'Église se prépare à l'avènement qui va se produire, dont elle est certaine qu'il va se produire, comme Marie, sans trop savoir peut-être comment, mais certaine. Et donc, en ce samedi saint, l'Église continue à préparer les catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques. Donc le samedi saint matin, il y a, on l'a fait tout à l'heure, nous, pour les catéchumènes de la paroisse, adultes, on a fait plusieurs rites de préparation ultime au baptême. Alors le premier rite de préparation, c'est ce qu'on appelle la reditio du symbole de la foi. C'est-à-dire que avant il y a eu la traditio, donc on transmet le credo aux catéchumènes pour qu'ils puissent l'apprendre. Et ensuite il y a la reditio, donc ils rendent leur profession de foi. Donc ce fait le samedi matin, le samedi soir, au moment de la veillée pascale, on va de nouveau leur demander « Renoncez-vous aux démons et croyez-vous en Dieu ?» Donc, il va de nouveau y avoir ça. Mais déjà le matin, on a vérifié que, vraiment, ils adhéraient à la foi de l'Église. Il y a une deuxième tradition, donc il y a la tradition du symbole des apôtres, il y a une deuxième tradition dans l'Église, c'est la tradition du Notre Père. Notre Père est donné aussi aux catéchumènes, donc habituellement peu de temps avant Pâques, parce que le Notre Père est une prière particulière que les chrétiens gardent précieusement. Et donc, ils reçoivent le Notre Père pour l'apprendre. Alors ça, souvent, les catéchumènes connaissent le Notre Père bien avant qu'on leur donne la liturgie, mais ça montre la place particulière de la prière du Notre Père dans l'Église. Il y a le credo d'un côté, l'adhésion de la foi, et puis de l'autre côté, il y a le Notre Père. Par contre, le Notre Père n'est pas redonné, il n'y a pas la reditio du Notre Père avant la veillée pascale. Le Notre Père sera redonné par les catéchumènes en même temps que l'Assemblée pendant la veillée pascale, au moment où on dira tous le Notre Père. Pourquoi ? Parce qu'il faut être baptisé pour pouvoir le dire en vérité. Parce que le baptême fait de nous des enfants de Dieu et on l'est vraiment. Et donc, ils ne peuvent pas dire en vérité le Notre Père, ils ne peuvent pas dire à Dieu Papa, tant qu'ils n'ont pas été adoptés, tant qu'ils ne sont pas renés de l'eau et de l'Esprit Saint, et tant qu'ils n'ont pas été adoptés par le Seigneur. Donc, il n'y a pas de reditio, sinon pendant la veillée pascale. Alors, on fait aussi le matin, le samedi matin, le rite de l'Ephphata, c'est-à-dire le geste que Jésus a fait pour guérir des sourds et muets, et là on le fait sur les catéchumènes pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu, particulièrement cette parole qui leur sera proclamée durant la veillée, puisqu'on va retracer toute l'histoire du salut, et puis proclamer leur foi. C'est quelque chose qui, souvent les baptisés aujourd'hui, ils entendent la parole de Dieu, ils la méditent même, ils font tout ce qu'il faut. Il y a une vraie redécouverte de la lecture de la parole de Dieu. Par contre, la proclamation de la foi, c'est plus compliqué. Toute la dimension missionnaire, évangélisatrice, où on proclame notre foi, et pourtant les fatas montrent bien qu'il y a un lien entre les deux et que le Seigneur demande que notre langue se délie aussi pour annoncer la foi en Jésus-Christ. Voilà. Donc on fait ce rite-là aussi, on demande au Seigneur de les guérir et de les préparer. Il y a le choix du non-chrétien à ce moment-là. Enfin, ça peut se faire à d'autres moments dans la préparation de baptême, mais souvent, c'est compliqué à choisir un nouveau nom. Donc souvent, ça se fait plus à la fin. Donc, on interpelle, on sait quel nom ils ont choisi, quel nouveau nom chrétien ils ont choisi, quel nom de baptême, comme on dit. Et donc, souvent, on dit, un tel, désormais, tu t'appelleras, enfin, c'est le prêtre qui dit ça, hein, désormais, tu t'appelleras un tel. Change de nom. Alors là, aujourd'hui, cette année, nous, on n'a pas de changement de nom. Hein. Souvent, il y en a l'un ou l'autre qui change de nom, ou bien un qui rajoute le nom d'un saint à son premier prénom. Mais voilà, c'est à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le nom dit quelque chose de la personne. Hein. Dans la Bible, le nom nous donne ce que nous sommes, nous donne notre vocation, nous donne notre identité profonde, et c'est la raison pour laquelle aussi on ne peut pas. C'est la raison pour laquelle aussi Dieu, dans la Bible, hein, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, parce que ça voudrait dire le mettre dans un, le renfermer. Donc il y a ce qu'on appelle le tétragramme, qui est le nom imprononçable de Dieu, qui sont plusieurs lettres. Que l'on trouve dans cette église, mais enfin, voici l'œil de bœuf qui est en haut de l'église. Là, il y a un grand, enfin voilà, on voit que c'est ouvert. Donc, c'est simplement que ils ont descendu la sculpture pour la restaurer, mais c'est un triangle avec le tétragramme dessus. Voilà. Et ça symbolise Dieu dans la Trinité, le triangle avec l'idée de Trinité dans le triangle, et puis le tétragramme, le nom imprononçable de Dieu, qui dépasse tout entendement. Donc ce nom est imprononçable, et encore aujourd'hui il est imprononçable. Dans la Bible de Jérusalem, malheureusement, on a pris la liberté, parce que Dieu s'était révélé en Jésus, on a pris la liberté de traduire le tétragramme par Yahvé. Comme si on savait que ça se prononçait comme ça. Peut-être se prononce peut-être comme ça, mais c'est pas à nous de le décider et c'est pas à nous de le dire. Dieu reste Dieu. Il reste l'imprononçable, celui qu'on ne peut pas renfermer. Et donc l'Église, il y a quelques années maintenant, je pense que c'était sous Benoît XVI, a demandé explicitement que désormais les catholiques, quand ils voyaient le tétragramme dans les traductions bibliques, traductions liturgiques, eh bien, on ne le prononçait plus Yahvé. On ne disait pas, on n'essayait pas de prononcer le nom imprononçable, mais on disait, comme font les Juifs, Adonai, et on traduit, chez nous on traduit, Seigneur. On dit Seigneur à la place. Et donc c'est ce qu'on fait maintenant dans la liturgie, et c'est ce que je vous invite à faire aussi quand vous lisez. Ça dit bien, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire son nom parce que Dieu vous dépasse. Même si Dieu s'est révélé en Jésus, il n'empêche qu'il continue à nous dépasser. On n'aura jamais saisi complètement la richesse de ce qu'il est. Donc le nom définit la personne. Donc c'est pour ça que les chrétiens, les nouveaux chrétiens, choisissaient des nouveaux noms qui montraient qu'ils avaient reçu un appel de Dieu et qu'ils souvent c'était des noms chrétiens qu'ils choisissaient. Même si dans l'histoire de l'Église on voit bien qu'il y a énormément de noms qui ont été utilisés et au début de l'histoire de l'Église, bien évidemment il n'y avait pas de saints qui précédaient ces noms-là. Donc voilà, il faut relativiser aussi le fait qu'il faut prendre des noms de saints. Mais voilà, souvent certains rajoutent la Vierge Marie, etc. Voilà, on donne le nom chrétien, le nouveau nom. Ensuite, on fait une onction d'huile des catéchumènes. L'huile des catéchumènes qui a été bénie par l'évêque quelques jours auparavant, dans la messe chrismale. Eh bien, cette huile, elle sert pour préparer déjà les catéchumènes au baptême. Alors, cette huile des catéchumènes, les futurs baptisés ont déjà reçu des onctions avec l'huile de l'année d'avant. Là, on fait avec l'huile de cette année pour bien montrer le lien entre l'évêque et puis aussi cette préparation, l'Église qui a souci de ces enfants, de ces futurs baptisés. Donc l'huile des catéchumènes, on fait l'onction dans les mains, mais aussi sur les parties du corps qu'on souhaite, c'est vraiment le symbole de la force et du combat spirituel. C'est vraiment pour soutenir les personnes dans leur cheminement et dans leur combat. Donc voilà, mais on le reçoit que quand on est catéchumène. Dès qu'on n'est plus catéchumène, ensuite on ne reçoit plus cette huile, d'autant qu'on a été, après, on reçoit l'huile du Saint-Crème, la confirmation qui nous fait, qui nous renforce, mais qui nous identifie au Christ. Voilà. Bon, voilà donc ce que fait l'Église le samedi. Elle veille dans la foi et en même temps elle prépare ses catéchumènes. Donc elle a vraiment confiance que le Seigneur va répondre à sa prière, que son espérance ne sera pas déçue. Et c'est aussi une invitation pour nous, toujours garder confiance. Voilà. Ensuite, quand le soleil se couche le samedi soir, donc c'est une journée sans messe, hein, et le samedi soir, quand le soleil se couche, eh bien, on ouvre une veillée, une grande veillée pascale. C'est la mère de toutes les veillées. La nuit, c'est la nuit la plus importante de toute l'année, hein, au-dessus de Noël et tout ça. Dans cette veillée pascale, c'est là que tout va surgir, renouvelé. On attend que la nuit tombe parce que, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, eh bien, à partir du jeudi saint au soir, nous sommes dans les ténèbres. Et la symbolique, alors là, nous on est gâtés, on a un soleil resplendissant actuellement, mais la symbolique des ténèbres est importante de bien réaliser ça. Le vendredi saint, le samedi saint, nous sommes dans les ténèbres. La lumière ne brille plus. La lumière de Dieu, hein, la lumière du Seigneur. Donc on se met dans l'ambiance. Donc on attend que le soleil se couche pour pouvoir célébrer la veillée pascale. Et voilà. Et donc là, on fait un feu à l'extérieur des églises, non pas parce qu'on a peur que l'église brûle, mais parce que ça a une symbolique aussi de le faire à l'extérieur. On fait un grand feu à l'extérieur. Et ce feu qui est allumé, si vous regardez, vous verrez, il est allumé avant qu'on commence la célébration. Parce que ce feu, c'est le feu de la Trinité, en fait. C'est le feu divin, qu'on ne voyait plus, qu'on n'apercevait plus. Et là, au début de cette célébration, d'un seul coup, va nous être révélé à travers ce brasier que la Trinité brûle toujours. Est toujours bien, non seulement vivante, mais réchauffe les cœurs. Enfin, voilà, elle est bien le brasier. L'amour de Dieu est toujours présent, enflammé. Et c'est un grand brasier. Dans l'idéal, c'est un grand brasier parce que c'est justement pour manifester que ce feu trinitaire. Et ce feu trinitaire, donc il va y avoir, on va bénir le feu comme on fait pour l'eau, parce que c'est un élément naturel. Donc on le bénit pour lui donner une valeur spirituelle, hein, comme. Voilà. Et donc ce feu, c'est ce feu trinitaire qui va redonner vie au corps mortel de Jésus. Donc je vous ai bien dit, hein, les ténèbres, la nuit, c'est vraiment le symbole de la vie sans Dieu. Alors, on est d'accord. Hein, c'est le symbole de la vie sans Dieu, la vie de l'homme, de tous les hommes, quels qu'ils soient. Même si le soleil brille comme aujourd'hui, il n'empêche qu'on est dans les ténèbres sans quand on n'a plus la présence du Seigneur. Et donc ce feu trinitaire, ce feu est allumé, symbole de la Trinité, et c'est ce feu trinitaire qui va redonner vie au corps mortel de Jésus. Et le symbole de ce corps mortel, c'est le cierge pascal. D'ailleurs, le cierge pascal, alors ça se fait pas tout le jour, parce que c'est des rites qui sont facultatifs, donc le cierge pascal, il est préparé avec différents gestes. Il y a une croix, il y a un chiffre pour l'année, bon, parce que ça montre que c'est une année de grâce que le Seigneur nous donne, que le Seigneur accompagne l'Église et chacun de nous dans l'histoire, dans la durée. Mais donc on fait la croix, on fait l'alpha et l'oméga, c'est l'Apocalypse. Et on met 5 grains d'encens dans le cierge pascal qui rappelle les plaies de Jésus. Et là, en fait, le cierge pascal nous rappelle le Christ ressuscité qui va se manifester à ses apôtres. Donc avant de se manifester, puisqu'on va l'entendre plus dans les évangiles, dans l'exultète, avant même, on prépare comme ça le cierge pascal. Et on allume le cierge pascal au brasier, hein, pour montrer que c'est ce feu qui redonne vie au corps mortel de Jésus, et que désormais Jésus vit d'une vie qui n'est pas une vie naturelle, qui est une vie surnaturelle, hein, qui vit une vie qui ne pourra plus mourir. Tout ça au cœur de l'obscurité. Et ce cierge pascal, eh bien, on va le présenter dans le silence, normalement. Normalement, il y a le silence autour de... Il y a quelques paroles que l'on dit, et il y a le diacre qui présente le cierge pascal, et qui dit quoi ? Je ne me souviens plus. Bon. Qui présente le cierge pascal et qui invite à ce que tous on fixe notre regard. Et au début, le Christ ressuscité, symbolisé par le cierge pascal, va avancer dans la foule qui est dans l'obscurité sans que personne n'en profite. Il passe à travers nous, passe au milieu de nous, comme l'humanité qui voit passer le Christ. Et au moment où elle arrive aux portes de l'Église, eh bien là, il y a de nouveau une acclamation. Et là, les fidèles baptisés, uniquement les baptisés, allument leur cierge au cierge pascal. Parce que c'est l'Église qui, par le baptême, nous donne la vie divine. Donc c'est le symbole, c'est en fait, on a nos cierges allumés quand on rentre dans l'Église, et pas à l'extérieur, en fait, à ce moment-là. On l'allume à la porte de l'Église, et on se transmet les uns les autres la flamme, toujours la même flamme, la flamme trinitaire qui a donné vie au corps de Jésus et qui désormais brille et brûle dans nos cœurs parce que par la grâce du baptême. Donc, c'est quoi l'acclamation ? L'acclamation, c'est quoi ? Ouais, lumière du Christ. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu, voilà. Et donc, voilà. Et donc, à la porte, on transmet. Et ensuite, toujours dans la nuit, l'église est éteinte. On entre avec le cierge pascal en premier et les fidèles qui suivent derrière, Et le diacre va se tenir devant tout le monde avec le cierge allumé, chacun avec ses petites flammes, tous ceux qui sont baptisés. Par exemple, les quatre catéchumènes d'aujourd'hui n'allumeront pas leur cierge, n'auront pas de cierge allumé à cette partie-là, hein, parce qu'ils ne sont pas encore baptisés. Ils sont encore, eux, dans l'obscurité, ils attendent la grâce de Dieu pour recevoir la lumière du Christ. Et donc, le diacre arrive au pied de l'autel, attend que l'assemblée rentre, et là, on a une expérience qui est souvent assez belle, hein, puisque l'église n'est pas éclairée par les lumières habituelles, mais les cierges vont nous illuminer. Et on voit comment, ça montre bien comment le chrétien qui vit de son baptême répand la lumière autour de lui et fait sortir l'humanité de l'obscurité. C'est vraiment ce symbole-là, que c'est vraiment la lumière se diffuse et éclaire vraiment tout ce qui est autour de nous. En plus, c'est beau. Il y a une sorte de beauté qu'on ne retrouve pas dans l'éclairage électrique qu'on va avoir après, etc. Il y a vraiment quelque chose de beau, et c'est vraiment le symbole de cette diffusion de la lumière dans les ténèbres qui se fait progressivement et grâce aux baptisés, hein, grâce aux fidèles. Donc c'est vraiment notre mission qui nous est rappelée à travers cela. C'est cette lumière du Christ ressuscité qui habite nos cœurs et qui se répand et qui éclaire autour. Et nous sommes appelés à la diffuser, puisque quand on se transmet la flamme les uns les autres, c'est aussi le symbole de l'évangélisation. Même si c'est le Seigneur qui baptise, il n'empêche que c'est nous qui transmettons la foi, hein, par notre prédication, par notre témoignage. Donc voilà. Donc il y a toute cette symbolique, le symbolique de la. On sort progressivement des ténèbres pendant la veillée pascale. Donc ça va, c'est par étapes, et on voit. Le diacre se tient avec le cierge pascal. Ensuite, il pose le cierge pascal, il l'encense. D'habitude, on n'encense pas. On encense l'autel, mais on n'encense pas de la croix aussi, mais le cierge pascal sera encensé à ce moment-là, et là, il va chanter l'exultète. Alors, l'exultète, on peut, c'est une grande hymne très ancienne, qui rappelle en fait le chant des anges et les apparitions des anges au moment de Pâques. C'est vraiment une « je vous annonce une grande nouvelle, le Christ est ressuscité ». C'est vraiment cette idée-là. Et c'est le diacre qui fait cela, parce que le diacre dans la liturgie, comme les ministres, mais le diacre nous renvoie aux anges souvent. C'est des messagers qui nous transmettent la bonne nouvelle. Donc voilà. J'avance un petit peu. Bon, il y a aussi l'encens qui est remis à ce moment-là. Juste une petite remarque, le charbon qui va servir à faire fumer l'encens. L'encens, il y a plusieurs symboliques, je vous en ai dit il y a deux jours, mais là il y a une autre symbolique que je n'ai pas dit, c'est la prière qui monte vers Dieu. Ça. Et donc, au moment où on charge l'encens, au moment où on allume l'encens, normalement le charbon il est allumé dans le feu pascal. Donc là aussi, la prière qui monte, c'est la prière, on ne peut pas prier en vérité sans l'aide du Saint-Esprit. C'est vraiment cette prière qui enflamme le charbon, c'est nos cœurs. Ce feu, c'est le feu du Saint-Esprit qui enflamme nos cœurs. Et ensuite, quand on formule une prière, eh bien, ça monte en bonne odeur. C'est la symbolique vraiment d'une prière authentique. Donc voilà, tout l'encens, enfin la symbolique de l'encens, il y a plusieurs niveaux, mais il y a aussi celui-ci, il est marqué à ce moment-là. Donc devant le cierge pascal, on encense, c'est à la fois pour honorer le Christ ressuscité, mais c'est aussi cette prière qui monte de nos cœurs déjà, voilà. Avec l'exultète. Et puis ensuite on reste toujours un peu dans l'obscurité. Alors on commence à allumer progressivement. Petit à petit, la lumière gagne sur les ténèbres. On allume progressivement, mais on va reprendre, à travers les lectures, toute l'histoire du salut, en commençant par la création. La création, la première alliance, et puis on va arriver à la fin de l'Ancien Testament. À un moment, on va se mettre debout, on va éclairer davantage, parce qu'on va chanter le Gloria. Et là, les cloches de l'Église vont de nouveau sonner. Avec le Gloria, nous est rappelé le mystère de l'incarnation. Donc déjà, Dieu avait apporté sa lumière à travers, en créant, en faisant la première alliance avec le peuple juif, et au moment où les temps sont accomplis, eh bien, il envoie son fils, et là, une lumière nouvelle resplendit. Donc, ça gagne en intensité. Au moment du Gloria, il y a un basculement dans la liturgie. La liturgie devient plus joyeuse et plus solennelle. Voilà. Donc, le Gloria a un statut très particulier pendant la veillée pascale. Voilà, il y a une oraison qui va avec, qui accompagne. Voilà. Donc c'est vraiment le chant des anges, le Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux, c'est le chant des anges au moment de la nativité. Le Gloria, c'est toujours en début de messe, quand on fait Gloria, juste avant on fait le rite pénitentiel qui montre qu'on se reconnaît pécheur, on a besoin d'être sauvé, et ensuite le Seigneur envoie son Fils pour nous sauver. Donc c'est le Gloria qui suit. Voilà, mystère de l'incarnation. Puis ensuite, les lectures, c'est la prédication. À la fois des saints, des apôtres, et puis de Jésus lui-même, à travers l'Évangile. Donc il y a le Gloria, et ensuite on entend une épître qui montre déjà cette prédication de l'Église qui annonce la bonne nouvelle du Sauveur. Donc normalement cette lecture est un peu plus solennelle que les autres, on la solennise un petit peu plus. Juste après, arrive un moment très solennel qui est le moment où on va accueillir l'Alléluia. Alors, donc, il y a un rite que je dis parfois, moi, que je déforme un peu, mais enfin, en restant fidèle quand même, parce que attention. Je dis, maintenant, je vous annonce une grande nouvelle, c'est maintenant l'Alléluia. Alors, souvent, les gens, ils rigolent un peu. Parce qu'en fait, l'Alléluia, on n'en avait plus pendant tout le carême. Alors là, je vais développer un tout petit peu la question de l'Alléluia. Voilà. Donc, je vous annonce une grande joie, c'est l'Alléluia. Normalement, c'est dit à l'évêque, le diacre dit à l'évêque. Et l'évêque entonne l'Alléluia, solennellement. Alors, il accompagne un psaume, et donc c'est un Alléluia très long. Et pendant ce temps, le diacre va chercher l'Évangile pour le proclamer. Donc c'est vraiment la victoire du Christ qui est en train de se produire. Voilà. Alors, alléluia, ça veut dire louer le Seigneur ou louer Dieu. Et donc, dans l'histoire de l'Église, on va beaucoup, beaucoup développer ce chant de l'alléluia, à un tel point que ça sera parfois très, très, très long. Je crois qu'il y a encore des rites orientaux où l'alléluia est très, très long, il dure un quart d'heure ou plus. Et c'est le « ya », parce que le « ya », c'est le nom de Dieu. Hein, donc, on fait des mélismes sur Dieu. Enfin, en grégorien, on fait des très très longues mélodies, au point que c'était tellement long qu'au Moyen-Âge, au cœur du Moyen-Âge, on s'est mis à écrire sur ces mélismes. Parce qu'il y avait des mélodies, donc, sur le nom de Dieu, et on s'est mis à écrire. Et c'est l'origine de ce qu'on appelle les séquences. Les séquences, c'est des poésies antiques qui sont écrites sur l'Alléluia. Et qui seront chantés au moment de l'Alléluia, en plus de l'Alléluia. Donc on en aura une séquence pendant l'octave de Pâques. Hein, c'est la joie de l'Église qui s'exprime donc dans cet Alléluia. Et ensuite l'Église va mettre par écrit une méditation. Hein, donc celle de Pâques. Alors je vous ai parlé de la séquence hier du Stabat Mater, de Marie qui souffre, hein, qu'on l'on dit encore au 15 septembre, Marie qui souffre au pied de la croix, mais il y a une séquence là de Pâques qui reprend un peu tout le début de l'annonce, qui rappelle, qui interroge les saintes femmes, qui dit « qu'est-ce que vous avez vu ? Dites-nous ce que vous avez vu », etc. Et qu'elles annoncent que le Christ est ressuscité. Donc voilà. Donc l'alléluia, c'est un acte liturgique à part entière, c'est pas un truc en passant très vite. D'habitude, dans les liturgies de l'Église, on lit la parole de Dieu et on répond. Hein. C'est ce qui se passe, par exemple, au psaume après la première lecture. On lit la première lecture, et puis ensuite, il y a un psaume de réponse, où le peuple, l'assemblée, répond à la parole de Dieu entendue. Mais, après la deuxième lecture, là, après l'épître, il y a comme une précipitation de l'Église, qui veut accueillir son Sauveur, et on ne prend pas le temps de répondre, on acclame déjà Jésus qui vient. Donc, voilà. Alors, on trouve plusieurs citations d'Alléluia dans la Bible. Alors, je vous lis en particulier, parce que dans le Nouveau Testament, l'Alléluia se trouve que dans un texte, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Donc, ça met tout de suite, ça positionne l'Alléluia, ça nous renvoie à quelque chose de profondément eschatologique. Voilà, et je vous lis le passage. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !» Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. » Donc c'est allusion à l'ensemble. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen ». On pourrait faire aussi un développement sur le « Amen ».« Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-nous la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc dans l'Alléluia, c'est Jésus, le Sauveur, qui vient. Le ciel s'ouvre, le salut est en train de se faire, en fait. Et donc l'Église, c'est vraiment un cri de victoire. L'Alléluia, c'est un cri de victoire. Et si on s'en prive pendant le carême, l'Église fait vraiment, l'Église latine, parce que l'Église orientale fait autrement, l'Église latine fait un jeûne d'Alléluia, vraiment. Elle jeûne d'Alléluia pendant le carême. Elle renonce à l'Alléluia, c'est difficile pour elle, pour pouvoir mieux le retrouver au moment de Pâques, et que ce soit le cri de la victoire, et le cri de la victoire du ressuscité. Donc il est présenté, l'Alléluia, dans ce texte, comme l'acclamation de la foule céleste et des anges, avec tous les saints qui sont invités aux noces de l'agneau. les noces de l'agneau étant l'Eucharistie, enfin sur terre c'est l'Eucharistie. Voilà. Alors, saint Augustin commande volontiers l'Alléluia en disant « Autant que nous le pouvons, afin de mériter de le dire toujours, il faut le dire sur la terre, l'Alléluia. Autant que nous le pouvons, afin de le mériter, de mériter de le dire toujours. Ici, Alléluia est notre nourriture. Alléluia est notre boisson. Alléluia est la formule de notre repos. Alléluia sera toute notre joie, c'est-à-dire la louange de Dieu. » Donc, le chant de l'Alléluia, c'est vraiment le chant de la victoire du Christ ressuscité, de ceux qui accueillent le Christ ressuscité dans leur vie, qui sont certains de la résurrection, que le Christ est vainqueur. C'est vraiment le chant préférentiel des chrétiens. Voilà. Donc à chaque messe, en dehors du carême, à chaque messe, on accueille le Seigneur qui va parler en chantant l'Alléluia comme un chant de triomphe au passage du Seigneur qui anticipe la joie d'entendre le Sauveur. Voilà. Donc il y a une dimension pascale, une dimension vraiment de Pâques, hein, du Christ qui ressuscite. Voilà. Voilà, la dimension eschatologique, et dans l'Alléluia, il y a une anticipation du ciel, c'est-à-dire que c'est le chant du ciel, hein, à plusieurs reprises dans la liturgie de l'Église, eh bien, notre chant n'est pas un chant que l'on chante et on dit aux anges, si vous y arrivez, essayez de nous suivre, c'est exactement l'inverse. C'est le chant des anges qui nous précède, hein, donc c'est dans le Sanctus, c'est la même chose, hein, à la préface. Sanctus, c'est le chant des anges qui nous précède et nous rejoignons ce chant-là. Et au moment de Pâques, c'est exactement cela. L'Alléluia, normalement, on ne l'a pas chanté du tout pendant le temps du carême, jusqu'avant l'Évangile, où là, on le chante avec les anges et avec les saints du ciel. Voilà, et on chante le Christ présent, qui va être présent dans les Écritures, comme le dit le Concile. Il est là, présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. C'est le Christ qui parle. Voilà. Et d'ailleurs, quand on a lu l'Évangile, on dit « Acclamons la parole de Dieu », et vous répondez, vous répondez pas « C'est vrai », voilà, vous dites « Gloire à toi, Seigneur Jésus ». Donc vous acclamez Jésus, et non pas ben c'est super, nous rendons grâce à Dieu, parce que en fait c'est ce qu'on dit pour les autres lectures. Avant l'Évangile, on dit nous rendons grâce à Dieu, et là on dit gloire à toi Seigneur Jésus. Voilà. Cette acclamation donc au sein de la liturgie de l'Alléluia est une véritable adoration du Seigneur Jésus présent dans sa parole, et en même temps. Donc, adoration de Jésus présent dans sa parole, en même temps, acclamation. Alors, il faut voir aussi que le Seigneur se présente sous la forme de l'Évangile, l'évangéliaire qui avance, hein, cette parole qui se fait chair et qui se manifeste. L'évangéliaire, c'est comme une icône de la présence du Seigneur, de la parole du Seigneur. Donc, il se présente une adoration du Seigneur Jésus présent dans sa parole, en même temps, la veillée pascale nous montre bien l'acclamation du Christ ressuscité vainqueur, qui règne dans le ciel, et en même temps, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse nous le rappelle, c'est une acclamation du Seigneur qui revient dans sa gloire, dans la parousie. Voilà. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse avec des bruits de grandes eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia. Apocalypse 19:6. Voilà. En tout cas, l'Alléluia, si je développe un tout petit peu cet aspect-là, c'est parce que l'Alléluia nous invite à entrer dans une démarche typiquement chrétienne que je ne pouvais pas développer plus tôt, hein, dans le Tédéum, c'est la dimension de la louange. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des êtres de louange, c'est ce que vivent les saints et les anges au ciel, mais nous sommes associés dès ici-bas, le chant d'Alléluia nous le montre clairement, associés dès ici-bas, nous sommes invités à nous associer dès ici-bas à cette louange du ciel. Et donc notre vie doit devenir louange. Alors, l'Alléluia a donc un rôle pédagogique. C'est ce que rappelle le Concile Vatican II lorsqu'il dit « Bien que la liturgie soit principalement le culte de la Divine Majesté, il ne faut pas se tromper, vraiment le culte de la Divine Majesté, elle comporte aussi une grande valeur pédagogique pour le peuple fidèle. Car dans la liturgie, Dieu parle à son peuple. Le Christ annonce encore l'Évangile. Et le peuple répond à Dieu par des chants et des prières. » Donc voilà, à travers... Voilà. Et donc saint Augustin, quand il commentera ça, il rappellera aux fidèles qu'il faut louer, que nous sommes appelés à être des êtres de louange, à louer dans toute notre vie et à louer par toute notre vie. Voilà ce qu'il dit. Nous sommes invités à chanter au Seigneur un chant nouveau. L'homme, c'est l'homme nouveau qui connaît ce chant nouveau. L'Alléluia, voilà, est l'expression de ce chant nouveau. Le chant est joie. Et si nous y regardons de plus près, il est amour. Donc, Alléluia, je ne l'ai pas dit, mais vous savez par cœur, Alléluia, on se met debout, on est dans une attitude de prière, de ressuscité et d'attente du Seigneur qui vient, de scatologie. Le chant est joie, et si nous y regardons de plus près, il est amour. Celui qui sait aimer la vie nouvelle connaît ce chant nouveau. C'est la louange, connaît ce chant nouveau. Aussi nous faut-il être averti de ce qu'est la vie nouvelle à cause du chant nouveau. Tout ici appartient au même royaume. L'homme nouveau, le chant nouveau, l'alliance nouvelle. L'homme nouveau chantera un chant nouveau et il appartiendra à l'alliance nouvelle. Voici, je chante, diras-tu. Tu chantes ? Oui, tu chantes, je l'entends. Mais prends garde que ta vie ne porte témoignage contre ta langue. Prends garde que ta vie ne porte témoignage contre ta langue. Chantez de la voix, chantez par le cœur, chantez par la bouche, chantez par votre conduite. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Vous vous demandez ce que vous chanterez pour celui que vous aimez et vous cherchez quelle louange lui chanter. Sa louange est dans l'assemblée des saints, dit le psaume. La louange à chanter, c'est le chantre lui-même, c'est-à-dire vous. La louange à chanter, c'est le chantre lui-même. Vous voulez chanter la louange de Dieu ? Soyez vous-même ce que vous chantez. Vous êtes sa louange si vous vivez bien. Vous êtes sa louange si vous vivez bien. Donc, tout ça, une invitation à la victoire du Christ ressuscité, à chanter l'Alléluia, à entrer dans la louange, mais que cette louange, ensuite, imprègne notre vie. En vivant bien, en vivant comme notre vie, comme une louange à Dieu, une offrande de louange. Un sacrifice de louange, puisque notre vie, par notre baptême, nous sommes appelés à nous offrir au Seigneur, donc nous vivons un sacrifice de louange, enfin nous sommes invités à vivre un sacrifice de louange. Voilà. Donc, après le chant de l'Évangile, après nous arrivons au chant de l'Évangile, donc très solennel, là la lumière est totale, puisque le chant de l'Évangile, on chante l'Alléluia, la victoire du Christ ressuscité déjà, à travers l'Alléluia, avant même que ce soit proclamé, on sait déjà. Et l'Évangile va nous proclamer le Christ ressuscité, et va nous rendre présent le Christ ressuscité de façon particulière. Donc la lumière est totale dans l'Église à ce moment-là, les ténèbres sont repoussées, seul reste l'autel qui reste encore les cierges éteints sur l'autel. Puisqu'on attend, il y a un petit quelque chose en plus qu'on voudrait vivre. Il y a une attente de l'Église. Donc voilà. Et donc là, il y a la prédication et ensuite on rentre dans les rites du baptême. Et donc les catéchumènes vont d'abord, on va baptiser les catéchumènes à ce moment-là. Et donc nous rentrons dans ce qu'on appelle les sacrements d'initiation. Donc les adultes, quand ils sont baptisés, ils reçoivent les trois sacrements dans la foulée, parce qu'ils vont ensemble, ils se tiennent tous. Dans l'histoire de l'Église, ils ont été séparés parce qu'on a commencé à baptiser les petits-enfants, et ensuite on a voulu que l'évêque soit là pour la confirmation, et puis l'Eucharistie, on a voulu la donner quand les enfants avaient l'âge de raison, enfin comprenaient ce qu'ils faisaient. Chez nos frères orientaux, catholiques orthodoxes, eux, ils continuent à garder les trois bien unis, y compris pour les enfants, ce qui fait que les enfants, ils sont baptisés bébés, par immersion, c'est mieux, complet, plongeon complet, et puis ensuite, ils sont confirmés, ils reçoivent la confirmation aussitôt, et ensuite, ils ont l'Eucharistie pour la première fois, donc on met, quand c'est des bébés, on met un peu de sang du Christ sur leurs lèvres. Et donc, ils font leur première communion de cette manière-là. Donc, chez nous, la discipline a évolué différemment, pour des raisons historiques, des choix qui ont été faits. Bon, aujourd'hui, il est clair qu'un des gros défauts de notre approche liturgique et pastorale aujourd'hui, c'est que la confirmation est donnée après la communion et qu'il y a plein de gens qui loupent la confirmation et qui croient qu'ils sont chrétiens, enfin qu'ils sont initiés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ils croient qu'ils sont initiés alors qu'ils ne sont pas confirmés. Or, la confirmation, c'est un sacrement nécessaire pour être initié, pour devenir vraiment chrétien. On a besoin de la confirmation. Donc, n'hésitez pas autour de vous, quand vous parlez, à dire « il faut être confirmé, il faut que tu fasses ta confirmation », voilà. N'hésitez pas à le rappeler. C'est une manière pour beaucoup de gens de redécouvrir leur foi, de refaire un parcours catéchuménal, parce que de fait, on propose aux gens qui se préparent à la confirmation de refaire un peu comme on fait pour les catéchumènes. On recatéchise, on fait une préparation spirituelle et d'enseignement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à le proposer autour de vous. Mais en tout cas, la confirmation est un sacrement qui est un sacrement un peu oublié, considéré comme facultatif. Par exemple, chez nous, on peut se marier sans être confirmé, ce qui est une aberration, puisque si le mariage est si important, si c'est une grande vocation, comme l'ordination, comme la consécration religieuse, on ne doit pas se priver de la confirmation, c'est pas possible. Mais on est un peu coincé pastoralement, je vous cache pas. C'est un peu compliqué. En tout cas, toujours est-il que ces trois sacrements de l'initiation se tiennent les uns les autres. Le baptême nous fait naître à une vie nouvelle, il nous fait renaître dans Jésus mort et ressuscité, on meurt avec le Christ, c'est pour ça que le baptême par immersion est la manière idéale de recevoir le baptême, même si l'Église, encore ce soir, nous on fera le baptême par aspersion, c'est-à-dire on reçoit de l'eau sur le front seulement, donc ça marche très bien, mais le signe est moins fort. Le baptême par immersion montre bien que quand on plonge la personne dans l'eau, si elle reste sous l'eau, elle meurt par étouffement, comme Jésus sur la croix. Jésus meurt par étouffement. Et on ressort en disant « Je te baptise au nom du Père » à trois reprises. Et donc c'est vraiment une mort au vieil homme pour vivre de la vie nouvelle qu'est le Christ ressuscité. Jésus est mort à notre place, par étouffement à notre place. C'est pas nous qui allons mourir par étouffement. Et donc cette vie nouvelle, qui est une vie nouvelle qui est donnée par Jésus, mais qui est une vie trinitaire. Le feu de la Trinité va briller en nous et on va allumer le cierge ensuite. Donc, le baptême, ça veut dire plonger, donc c'est vraiment ça. Alors, le baptême par immersion, donc c'est ce qui est le plus parlant de ce point de vue-là. Mais le baptême par aspersion aussi montre bien qu'il y a une purification. Le fait qu'on le mette sur le front aussi, c'est le lieu de l'orgueil. La symbolique de la tête, ouais, c'est toujours, la tête normalement elle est en haut, toujours dans notre vie, et on se prend un peu la tête. On s'y croit un peu, donc voilà, c'est notre péché d'orgueil. Donc là, il y a une humilité, d'autant que quand on est baptisé, on se penche souvent pour recevoir la grâce du baptême, montrant que c'est le Seigneur qui donne sa grâce, qui nous donne notre vraie condition d'enfant de Dieu. Donc le baptême nous fait renaître, il nous fait enfant de Dieu. La confirmation va confirmer ce qui est déjà reçu au baptême et va nous donner la plénitude du Saint-Esprit. Il fait de nous des adultes dans la foi. Reçoit l'Esprit Saint, le don de Dieu. C'est la formule que l'on dit au moment du baptême. Donc vous verrez, dès que les baptisés sont baptisés, ils reçoivent la confirmation. Juste entre-temps, ils auront reçu le vêtement blanc et le cierge allumé que vous avez dans vos mains pendant la première partie de la célébration, le cierge allumé, et pour montrer que ce que le baptême a transformé en eux, on le manifeste extérieurement de cette manière-là. Hein, le vêtement blanc par le vêtement. Alors c'est les aubes, hein, c'est vraiment les vêtements du baptême, les aubes que portent les prêtres et les servants d'autel. C'est le vêtement du baptême. Nous devons resplendir de cette blancheur, de cette lumière dans notre monde. Donc c'est cette idée de purification aussi, de luminosité que l'on est appelé à transmettre. Hein, il y a un rite qui est particulièrement surprenant, mais qui est très ancien, qui est le rite éthiopien. Et les Éthiopiens, donc c'est très ancien, ils ont gardé vraiment des premiers siècles de l'Église au niveau de la mode de prière. Et entre autres, il y a quelque chose qui est très beau chez eux, c'est que le dimanche, tout le monde s'habille en blanc. Et les femmes portent des très beaux voiles blancs sur elles pour aller... Et c'est très très beau, c'est des assemblées de gens tout blancs. Je sais qu'il y a des communautés protestantes qui font un peu ça maintenant. Mais ça exprime bien le renouvellement que produit la grâce de Dieu dans nos vies. Donc la confirmation, c'est l'Esprit Saint qui descend, hein, ça fait allusion à la Pentecôte. Le baptême fait allusion à la mort et à la résurrection de Jésus. La confirmation a allusion à la Pentecôte, mais c'est intimement lié. Si vous regardez bien, le don du Saint-Esprit dans les évangiles, c'est la Pentecôte, mais déjà, dans l'évangile de Jean, dès le soir de Pâques, Jésus donne le Saint-Esprit. Il souffle sur eux et leur donne le Saint-Esprit. Donc tout le temps de Pâques est un temps pentecostal. On reçoit le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, et le Saint-Esprit affermit ce qu'on a déjà reçu. Voilà. Et puis ensuite, l'Eucharistie, les catéchumènes, le troisième sacrement d'initiation, reçoivent l'Eucharistie aussi solennellement pour la première fois, et c'est cette Eucharistie qui va les accompagner tout au long de leur vie. Hein, c'est pour ça qu'il y a un truc qui est biaisé dans notre pastoral actuel, c'est que souvent les enfants, ils ont la communion, ils sont pas confirmés, ils vont peut-être pour un certain nombre d'entre eux même plus communier pendant pas mal de temps, alors qu'ils en auraient besoin, et ils sont pas confirmés. En fait, la confirmation les aurait préparés à la communion, et la communion est faite pour les accompagner tous les jours, et on en a besoin au minimum toutes les semaines. Donc, ce qui est très clair, c'est-à-dire la communion, c'est vraiment une réalité spirituelle dont on ne peut se passer, hein, pour vraiment cheminer en chrétien. Voilà, derrière cela, il n'y a aucun jugement de personne, hein, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que voilà ce que le Seigneur nous dit. De même que le Seigneur nous dit de revenir tous les dimanches. C'est dans les évangiles et les actes des apôtres. C'est très clair que dès le début, les chrétiens se retrouvent tous les dimanches pour célébrer leur Dieu et se nourrir de sa présence. Entendre la prédication des apôtres, se nourrir de sa présence. Voilà. Voilà. Alors, l'Eucharistie de ce jour-là, du jour de Pâques, à la différence de l'Eucharistie de la Sainte Seine. L'Eucharistie de la Sainte Seine était un cadeau que l'on recevait parce que l'Église, le Seigneur formait son Église en confiant l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie de Pâques, Jésus n'a pas célébré l'Eucharistie après Pâques, après sa résurrection, mais c'est l'Église qui va le célébrer. Mais cette Eucharistie va être toute nouvelle, dans le sens où elle va être illuminée par la puissance de la résurrection, et elle va être comme... il va y avoir une tonalité très différente de la Sainte Seine, dans le sens où c'est une Eucharistie très très joyeuse, très heureuse, où le Seigneur est là présent. Dans l'Eucharistie, nous savons que sacramentellement le Seigneur est vraiment présent, et nous savons que au moment de Pâques, Jésus se manifeste à ses amis en disant « La paix soit avec vous », il est là au milieu d'eux. Et c'est cette même réalité que l'on revit dans l'Eucharistie, mais en se rappelant toujours « Ceci est mon corps livré pour vous ». Le Seigneur, il a tout donné et il se manifeste à nous comme celui qui a tout donné. Voilà. Et donc l'Église a fêté très solennellement ce temps de Pâques qui commence. Donc normalement on peut dire que le temps de Pâques c'est un dimanche. C'est un dimanche qui va durer une semaine, deux semaines plus un jour. Donc la semaine étant 7 jours, 7, le chiffre 7, 7 c'est la plénitude biblique, selon la Bible. Donc c'est 7 fois 7, fois 7 semaines. Donc c'est multiplié, donc c'est du... c'est de la surabondance, plus 1, ça le jour de la Pentecôte, hein, le 1, ça fait 50 jours, et donc là il y a une dimension eschatologique très très fortement manifestée. Et pendant tout le temps de Pâques, donc c'est un seul dimanche, c'est un temps de grande fête. Et saint Augustin et d'autres diront que le carême ressemble à notre vie habituelle. On fait ce qu'on peut. On a du mal, on fait des efforts, on chute, voilà, on rame un peu. C'est un peu pénitentiel, nos histoires. Mais le temps pascal, c'est le temps du chrétien habité de la présence de Dieu. Et donc, en fait, saint Augustin, il dira, ben voilà, le carême, c'est le temps habituel. Le temps pascal, c'est vrai qu'il va se réaliser qu'au ciel. Hein, c'est pour ça qu'il y a une anticipation du ciel. Hein. Mais par contre, dès ici-bas, toi qui es chrétien, tu es invité à chanter de l'Alléluia, tu es invité à vivre en chrétien, tu es invité à rayonner de la joie du ciel. Comme disait la petite Thérèse, j'aime le rappeler, juste au moment de sa mort, quand on lui dit « Ah ben, bientôt tu vas mourir, tu vas être contente, tu vas revoir Jésus, tu vas voir Jésus », elle dit « Pour avoir Jésus avec moi, je l'ai déjà ». Je ne sais pas ce que ça changera, pour avoir Jésus avec moi, je l'ai déjà. Tellement elle avait la foi. Et c'est vrai que c'est ce que nous sommes invités à vivre en tant que chrétiens, c'est à vivre en ressuscité. Hein, à vivre, à chanter l'Alléluia par toute notre vie et à vivre en ressuscité, à se donner à Dieu complètement avec Jésus, hein, dans la grâce de notre baptême. Le Saint-Esprit nous aide, c'est la confirmation, hein, qui nous a fortifiés pour cela. L'Eucharistie nous accompagne, Jésus est toujours « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », donc il nous accompagne vraiment, et nous sommes invités donc à vivre en ressuscité. Et le temps pascal, donc c'est cette dimension eschatologique où on commence à le vivre ici, en sachant qu'on continuera à le vivre parfaitement au ciel. Mais déjà, il faut commencer ici. Et saint Augustin continue en disant mais qu'au final, la vie sur terre, dans le temps pascal, est plus exigeante que la vie pendant le carême. C'est-à-dire que le carême, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais c'est très cool par rapport au temps de Pâques. Parce que le temps pascal nous demande de vivre des réalités du ciel. Nous oblige, nous invite, nous oblige, dans le sens nous insiste pour que nous vivions des réalités du ciel. Que nous arrêtions de nous retourner sur nos problèmes, sur nos défauts, sur nos péchés, sur... Alors, bien sûr, il faut continuer à se confesser, tout ça, évidemment, mais on fixe notre regard sur le Seigneur. Notre vie, elle est pour le ciel, et on est appelé à la vivre déjà ici-bas. Et donc, le temps pascal, c'est ce temps privilégié qui nous rappelle cela. Dans le temps pascal, il y a plusieurs étapes. Bon. Première étape, c'est les 8 premiers jours, ce qu'on appelle l'octave de Pâques, qui sont vraiment très très solennels. On chante justement la séquence, normalement la séquence de Pâques, hein, on va la rechanter, on peut la rechanter tous les jours, jusqu'au dimanche suivant, le dimanche de Pâques, c'est le dimanche de Jésus qui apparaît à saint Thomas, qui n'y croit pas, parce que le dimanche d'avant, Jésus était apparu, mais saint Thomas il a dit « moi si je le vois pas, j'y crois pas, si je mets pas mes mains et tout ça », et donc dimanche suivant, c'est dans... On voit bien, les chrétiens se retrouvent comme ça tous les dimanches. Dimanche suivant, Jésus lui apparaît et dit « Mets ta main dans mon côté. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Donc une interpellation. À la fin de l'octave, il y a cette interpellation « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et je pense que vous allez vous sentir concernés. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. On se sent tous un peu concernés. On dit « Ah ben oui, quand même. » Voilà. Le Seigneur nous y encourage. Et donc, pendant cette période, c'est dans cette octave, les catéchumènes, normalement, sont toujours habillés en blanc, selon la tradition de l'Église. Bon, ils ne le font pas trop tout le temps, parce que c'est un peu délicat, parfois, mais voilà. Normalement, ils sont habillés en blanc, et le dimanche de saint Thomas, c'est le dimanche qu'on appelle in albis, c'est-à-dire en blanc, le dimanche en blanc, c'est-à-dire que les catéchumènes, les baptisés de Pâques, sont de nouveau à la messe habillés en blanc, selon la tradition. Ça s'est un peu perdu sur la tradition. Il reste habillé en blanc. C'est comme une journée entière qui a duré 8 jours. Là encore, le chiffre 8, 7 plus 1, 7, la plénitude, 8, l'eschatologie. Là encore, on sort des réalités terrestres et on va dans les réalités célestes. Et c'est une invitation, nous-mêmes, à vivre aussi de cette manière-là. Le dimanche, donc ce dimanche de Saint Thomas, c'est aussi le dimanche de la Divine Miséricorde. Hein ? Et ça, c'est le Seigneur qui nous l'a montré progressivement, et au début du XXe siècle, à travers Sainte Faustine, il a demandé à l'Église que ce dimanche devienne officiellement le dimanche de la Divine Miséricorde. Et le Seigneur s'est manifesté à Sainte Faustine à travers une image. Et Sainte Faustine disait, quand elle a été peinte, l'image, il disait, elle n'est pas très belle, hein, cette image, Seigneur, je suis désolé, elle n'est pas très belle. Il dit, oui, mais c'est pas grave. Jésus a dit, c'est pas très grave, l'essentiel, c'est que les gens, ils prient devant, et voilà. Donc, en fait, on est d'accord, l'image du Christ miséricordieux, tel qu'on le connaît, est bien en dessous de la réalité. C'est pas une photo. Mais l'important, c'est de prier devant et de voir le mystère qui nous est présenté. Et que fait Jésus sur ce Christ miséricordieux? Il présente son cœur ouvert, qui ne s'est jamais refermé, ce qu'on en évoquait hier, ouvert sur la croix, qui ne s'est pas refermé, qui là donne pas du sang et de l'eau, mais des rayons, rayons blancs et rayons rouges, qui sont le signe de sa grâce, communiqué par l'Église, dans les sacrements en particulier. Voilà. Donc c'est un dimanche important désormais, hein, pour l'Église. Ça l'a toujours été, mais ça l'est encore plus. Et puis ensuite, le temps pascal continue. Le temps pascal, au début du temps pascal, il y a énormément de récits d'apparition, parce qu'on voit les apôtres qui n'arrivent pas à croire. C'est une des preuves que les évangiles sont vrais, c'est que dans les évangiles, on ne met pas du tout, on ne cache pas du tout la difficulté des apôtres. Ils sont pas là à la croix, ils arrivent pas à y croire, Thomas il doute, ils sont là, ils disent ils y croient pas encore, et plusieurs fois, hein. Vraiment, on sent qu'il y a de l'assistance, il faut que Jésus insiste, hein. Et il va faire ça pendant 40 jours, jusqu'à l'ascension. Et à l'ascension, non pas que le Seigneur n'était pas déjà au ciel, le Seigneur va remonter au ciel pour montrer que désormais, les apparitions c'est fini. On a quelques-unes avec Sainte Faustine, mais ça reste très très exceptionnel. L'apparition, c'est fini. On n'a plus besoin. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et là, on rentre dans une nouvelle étape. C'est l'étape de la préparation au don du Saint-Esprit, la neuvaine qui prépare à la Pentecôte. Donc, on se prépare pour être complètement renouvelé par la puissance du Saint-Esprit, pour que l'Église soit vivifiée par la puissance du Saint-Esprit. Hier, je vous parlais de l'Église qui naît du côté du Christ, hein, comme Ève a été façonnée du côté d'Adam, et bien de la même manière, donc le Christ, l'Église a été façonnée du côté du Christ, mais là, elle est vivifiée. Le souffle de vie, c'est l'Esprit Saint qui va lui donner la vie. Hein, c'est le don du Saint-Esprit. Donc l'Église est complètement vivante, devient complètement vivante à ce moment-là. Voilà. Donc, je vais terminer. Alors, il y avait plusieurs choses. Je voudrais faire une allusion simplement, mais très rapide, sur le fait que, entre la joie, donc je vous parlais de la foi de la Vierge Marie le samedi saint, et il y a la joie de Marie, pendant le temps pascal, dont on peut très facilement faire un parallèle entre la prière eucharistique, l'Eucharistie, qui est toujours joyeuse, hein, tous les dimanches, on fête la résurrection du Seigneur. Donc l'Eucharistie du dimanche, toujours la fête de la résurrection du Seigneur, entre l'Eucharistie et le Magnificat de Marie. La joie de Marie, qui est manifestée, et Marie, je vous rappelle, elle est présente au moment de la Pentecôte. Elle est là, elle avait déjà reçu le Saint-Esprit, mais elle est là au milieu, elle prie avec les apôtres. Donc, voilà, juste une petite parallèle possible sur le fait que Marie nous aide dans la louange, nous aide à rentrer dans une bonne attitude. Et que l'Eucharistie est un rappel de la liturgie céleste, donc nous fait rentrer dans la liturgie du ciel, qui est les noces de l'agneau. Le Seigneur continue à s'offrir au Père dans l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que la liturgie de l'Église est toujours normalement eschatologique. Et donc, elle est généreuse à cause de ça. Voilà, mais je voulais terminer par un autre truc. C'est la divinisation. Dans toute cette histoire, dans toute cette histoire que l'on vit à travers le Tridéum, ce grand passage, Pâques, qui est Pessar, qui veut dire passage, on passe à travers la mort avec Jésus, par le baptême, nous, on passe à travers la mort avec Jésus pour vivre, trouver la vie nouvelle, que je vous ai dit qu'il fallait en vivre dans la louange et vivre de réalité du ciel dans le temps pascal. Et donc, dans ce passage, ce que veut faire le Seigneur, c'est que dès ici-bas, sur terre, il veut nous diviniser. Cette œuvre est commencée par les sacrements d'initiation, hein, par le baptême, la confirmation et l'Eucharistie qui nous accompagne tout le temps. Les sacrements de réconciliation aussi, pour voilà, j'ai pas le temps de développer davantage pour ça, mais ça mériterait pourtant. Voilà. Et donc, le Seigneur veut une œuvre de divinisation. Il veut une œuvre, nous, chez nous, les orientaux utilisent souvent ce terme divinisation, nous utilisons plutôt le terme sanctification. Seulement, il y a un problème, c'est que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne pourront jamais être saints. Donc divinisation, quelque part, ça parle presque mieux. Parce qu'on se dit, c'est pas moi qui peux me diviniser, je peux pas me diviniser tout seul, évidemment. Sanctification, on a l'impression que c'est nous qui devons tout faire, hein. Le pélagianisme. Tandis que sanctification, on laisse faire la grâce. Mais c'est vrai que c'est du boulot. Et comme je vous disais, le temps pascal est difficile à vivre, plus difficile que le carême, parce qu'on doit vivre des réalités du ciel, c'est exigeant. Se laisser transformer par le Saint-Esprit. Laisser agir la grâce, ne pas l'empêcher. Et donc, il y a ce travail de divinisation qu'il doit réaliser, c'est vraiment notre vocation. C'est l'appel universel à la sainteté. Quand je vous ai parlé de l'Église jeudi, je vous ai dit qu'au cœur du texte du Concile Vatican II, il y avait cet appel universel à la sainteté. Et donc, c'est vraiment cela que le Seigneur veut réaliser par son œuvre, par ce mystère de Pâques. On ne se contente pas simplement d'avoir la foi, mais on se contente, on veut accueillir le Seigneur pour qu'il transforme notre vie. Et donc, devenir saint. On peut devenir saint à tout âge, et le Seigneur n'est jamais à court. Donc, c'est pas, il n'y a que nous qui mettons des limites. Dieu n'a pas de limites dans ses capacités. Donc laissons cette sanctification se faire. Alors, je ne peux pas développer davantage, mais je dis quand même que dans l'Église, toutes les grandes spiritualités, moi je connais davantage la spiritualité du Carmel, c'est très clair que à un moment dans notre progression spirituelle nous arrivons au mariage spirituel, c'est-à-dire cette union à Dieu indéfectible qui nous lie complètement. Avant il y a les fiançailles spirituelles dans le parcours spirituel, fiançailles spirituelles, c'est une promesse, mais c'est pas encore une union telle un mariage sacramentelle, mais c'est vraiment une union des personnes entre Dieu et nous, et qui font que on s'influence de plus en plus, au point que dans le mariage spirituel on est dans ce qu'on appelle l'union transformante, c'est-à-dire que c'est une union à Dieu qui transforme notre agir, nos comportements, hein, c'est les saints. Mais ça, on y est appelé, c'est pas qu'une élite, c'est pas pour une élite. Et ça ne nous appartient pas de nous juger nous-mêmes là-dessus. Très dangereux de se dire, moi je suis nul, parce qu'on arrête, le découragement c'est le démon. La petite Thérèse dit que c'est de l'orgueil, le découragement. Et moi, mais peut-être pas tout seul, je dis que c'est le démon. Le démon veut nous décourager pour dire, oui, sois médiocre, c'est beaucoup mieux. Mais oui, tu n'es qu'un chrétien médiocre, tu ne seras toujours que ça. Comme ça vous êtes tranquille. Vous n'avancerez pas et la lumière ne rayonnera pas dans notre monde et rien ne changera. Or, on est appelé ici-bas, déjà, à être divinisé. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Voilà, que le Seigneur vous donne, à travers cette grâce de Pâques, de vivre cette divinisation. Amen.